Je m'appelle Julia Foyce, je suis journaliste et j'ai eu très envie de comprendre de l'intérieur ce qu'on vit, comment on le vit quand on sort de la norme, quand un et un ne font pas toujours deux, quand ton rapport au réel n'est pas tout à fait classique. J'ai proposé à Max, Ali, Agathe, Abigail et Stan de me raconter leur quotidien sous forme de notes vocales enregistrées sur leur smartphone, envoyées sur le mien. Comme ça. Sans filtre, sans intermédiaire, sans expert en santé mentale, aucun. J'en avais marre qu'on parle à leur place, je voulais qu'on les laisse exister dans toute leur singularité. Voilà donc leur carnet de bord version 5G. Dans cet épisode, Ali, Giulio, son bulldog français et son TDI.
Salut, je m'appelle Ali, j'ai 25 ans, j'habite à Strasbourg avec mon chéri et nos trois animaux. On a Giulio et Salem, nos deux chats, et Soja, notre petite bulldog français. Je m'excuse d'avance si vous entendez de la musique en fond, c'est juste pour m'aider à me concentrer, parce que je dissocie beaucoup. En fait, on est atteint du trouble dissociatif de l'identité. Vous allez m'entendre dire « on », vous allez m'entendre dire « nous », mais je parle pas de mon chéri et moi, je parle de moi et les 15 autres personnes qui vivent avec moi dans ma tête.
La première fois que j'ai croisé Ali, 25 ans aujourd'hui, c'était il y a 2 ans. Elle venait de publier un livre, Mauvaise mère, où elle racontait une maternité doublement compliquée, une mère toxique, violente, et puis une grossesse non désirée, un lien qui ne se fait pas. Et bah, lisez son livre ou écoutez En Marge, vous comprendrez. Bref, comme pour chaque invité de l'émission, je fais une interview préparatoire à l'enregistrement. Je lui pose beaucoup, beaucoup de questions sur son enfance, son adolescence. Ali répond toujours avec beaucoup d'intelligence, de bienveillance, d'envie. Fin de l'entretien, elle me dit « Après, voilà, ça, c'est mes réponses, mais je ne sais pas qui viendra vendredi pour l'enregistrement. » Je ne comprends pas, donc elle m'explique « En fait, j'ai un trouble dissociatif de l'identité, je vis avec une quinzaine d'altères dans ma tête, on n'a pas tous les mêmes souvenirs et je suis incapable de vous dire qui vous répondra au micro. » J'avais entendu parler bien sûr du TDI, j'en avais, comme vous toutes et tous, des images sensationnelles, ces gens qui changent de voix, qui mutent, qui se transforment sous nos yeux et qui bien sûr sont très très dangereux. Pour des films à suspense, c'est mieux. Avec Ali, c'était tout autre chose. C'était une porte qui s'ouvrait, c'était 1000 questions qui me venaient. La vérité, c'est que c'est avec elle que l'idée de ce podcast est née. Et vous, vous allez pouvoir passer 40 minutes dans la tête d'Ali.
Donc le TDI se diagnostique à partir du moment où il n'y a plus de deux identités ou deux identités distinctes dans notre tête. Alors, ces identités-là, on appelle ça des alters. Les alters, c'est tout simplement des états alternatifs de conscience. En fait, c'est clairement des personnes. On va dire les choses comme elles sont. C'est comme si vous étiez dans une colocation, dans un appartement. Et en fait, dans cette colocation, vous êtes 15. Bah, nous, c'est pareil, mais dans la tête. Comme une grande famille. Et en fait, ça nous aide vraiment à vivre au quotidien, à vivre toutes les étapes d'une vie, en fait, pour appréhender chaque moment qui va pouvoir nous arriver. Donc, nous, les alters, on fait partie d'un système. Le système, c'est l'ensemble du corps. Donc, certains systèmes ont un nom, pour que ce soit beaucoup plus simple, parce qu'il faut savoir que les alters peuvent avoir aussi leur propre prénom. Mais... pour que ce soit plus simple, on a trouvé un nom de système chez nous. Notre nom, ça s'appelle Ali. C'est plus simple, parce qu'en fait, c'est drôle, mais A, L et I, c'est les trois premières lettres de chaque prénom de tous nos alters. Donc voilà, on a trouvé ce petit prénom pour que ça puisse convenir à tout le monde et que dès que quelqu'un veuille nous parler, tout le monde peut se sentir concerné et c'est beaucoup plus facile. Dans le TDI, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, comme les switches. Alors les switches, c'est tout simplement des changements d'alter au front. Alors là, je sens que je vous ai un peu perdu. Le front, c'est quand un alter est devant. Là, par exemple, moi, je vous parle. Donc moi, je m'appelle Ilona. Je sais pas, dans 2 minutes, peu importe la raison, il va y avoir un autre alter qui va venir vous parler. Les switches, ça peut arriver quand... il y a des déclencheurs, que ce soit des situations dangereuses ou des moments joyeux ou rien que le fait de voir un rayon de soleil dehors, un alter peut venir, une musique qu'on va entendre qui va nous rappeler des souvenirs. Et il peut même y avoir des switches, donc des changements d'alter, pour rien du tout. Il peut vraiment rien se passer et il y aura un changement d'alter. En fait, c'est juste des personnes dans une tête, mais qui font leur vie. Mais si vous devez retenir quelque chose sur ce trouble, c'est que c'est un trouble dû à des traumatismes quand on était enfant. Et que ce trouble-là, il est vraiment là pour nous aider à vivre et à survivre. Et c'est pas du tout un trouble dangereux pour les autres, ni pour nous-mêmes d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose pour nous sauver, en fait, tout simplement. Donc, en fait, c'est notre cerveau qui a créé une porte de sortie pour pouvoir s'isoler des traumatismes qu'on est en train de vivre. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Alors, j'aimerais bien vous faire un tour de mon appartement qui n'est pas très représentatif de nos personnalités parce qu'il n'y a absolument rien. Enfin, quand je dis rien, c'est juste qu'il n'y a pas de déco. Parce qu'on est nul en déco. Là, je suis dans mon salon. J'ai une grande télé. J'ai une petite statue d'un bulldog français sur mon meuble télé. Parce qu'en fait, j'ai une bulldog français. Et elle est trop mignonne. J'ai ma table basse qui est en bois. Et dessus, il y a un peu le bordel parce qu'en fait, j'ai du mal à ranger mes papiers. Et je procrastine beaucoup. Mais des fois, je pète un câble et je range tout d'un coup. Hein, mais voilà. Je suis en face de mon canapé. Il y a mon plaid dessus qui le protège parce que sinon, mes chats, eh ben, ils défoncent tout. En face de moi, il y a mon balcon qui est très large. Donc c'est cool parce que mes chats, ils aiment trop aller dessus. Genre Giulio, il aime trop se mettre allongé au soleil, en fait. C'est sa passion. Donc là, je traverse le couloir. Et au couloir, il y a direct le panier de soja, donc notre bulldog français. C'est un panier énorme et c'est à mémoire de forme pour qu'elle soit trop bien. Je suis dans ma salle de bain. Derrière moi, il y a toutes mes palettes de maquillage sur mon meuble de la salle de bain parce que des fois, je pète un câble et je me fais des make-up graphiques et tout. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. J'ai tous mes produits pour mes cheveux parce que j'ai les cheveux bouclés et ceux qui ont les cheveux bouclés, ils savent à quel point c'est important de bien s'en occuper. Là, je suis dans ma chambre. Il y a mon dressing avec 45 000 vestes, sans mentir. Je sais pas pourquoi, j'aime trop les vestes. Il y a mes livres juste en face de moi. Principalement, mon préféré, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et il y a aussi les deux livres aussi, super importants, c'est National Geographic, c'est sur les grenouilles. Et l'autre, c'est l'imagerie L'Espace. Parce que j'ai deux alters Little qui adorent tout ce qui est... Alors, c'est deux jumeaux. Il y en a un qui adore l'astrologie, non, l'astronomie, enfin bref, les deux. Et l'autre, il aime trop les grenouilles. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Alors là, je vous emmène avec moi devant mon miroir du couloir parce que c'est le miroir le plus grand. Et je vous avoue que ça fait 15 fois que je refais le vocal parce que je fais que switcher et j'arrive pas à trouver le meilleur vocal qui peut nous décrire et ce à quoi on ressemble vraiment. Je dis « on » et je vais parler du corps dans sa généralité parce qu'en fait, chaque alter a sa propre perception de soi. Donc en fait, je vais juste vous parler de mon enveloppe corporelle. Du coup, je suis petite. Je fais 1m20, les bras levés. Non, c'est pas vrai, je fais 1m60. J'ai beaucoup de tatouages. J'en ai un énorme dans le dos qui descend jusqu'en bas des fesses. J'ai un tatouage sur la cuisse, sur le genou, sur le haut de la poitrine près du cou. J'en ai plusieurs sur les bras. D'ailleurs, il y en a qui n'ont aucun sens. Genre, j'ai une allumette. Ne me demandez pas pourquoi, ça doit être un de mes haltères. Parce qu'on adore l'odeur des allumettes. Enfin bref, je vais éviter de partir dans tous les sens. J'ai les cheveux attachés actuellement. J'ai des sourcils très très bien travaillés. Il faut le dire quand même. Parce que je suis vraiment fière de mes sourcils, même s'ils sont super clairs et que c'est un peu chiant.
parce qu'il faut les teindre ou les maquiller. Enfin, bref. Là, j'ai des extensions de cils couleur brun. J'aime trop, parce que du coup, ça fait ressortir les yeux verts. Incroyable, oui, parce que j'ai les yeux verts. J'ai deux tatouages sur le visage. J'en ai un du côté droit du visage, une fleur avec des petites feuilles et tout. Il est noir. Et j'en ai un autre, c'est un petit soleil rouge, vraiment tout petit. Maintenant, on dirait plus une tache de naissance qu'autre chose, mais si on se rapproche bien, on voit que c'est un soleil. Très important. J'ai trois piercings aux oreilles. J'ai un peu de ventre. On essaye de perdre du ventre, là. Mais pour maigrir, il faut faire du sport. Et on déteste le sport. Je crois que d'ailleurs, il n'y a aucun alter qui aime le sport. Et c'est un petit peu problématique. Quand je souris, j'ai des fossettes. Et ça, je suis super fière de le dire parce que je trouve ça trop mignon. Par contre, dans ma tête, donc moi, je m'appelle Lola, je ressemble totalement à autre chose. Je suis blonde, platine, avec les cheveux courts, assez bouclés, beaucoup de volume, genre à la Marilyn Monroe. Et je suis plus grande. Et j'ai un autre style. De base, moi, en tant que Lola, j'adore les talons. Genre, vous savez, les talons de Bratz avec les énormes plateformes. Et en général, je m'habille beaucoup en noir. Après, moi, spécialement, comme image que j'ai de moi, je suis pas dégueu, hein. Je veux pas me mentir. Il y a d'autres haltères qui ont pas confiance en eux. Du coup, je vais pas parler pour eux, je vais juste parler pour moi. Je trouve que ça va. Franchement, il y a pire. Il y a des parties qu'on aime et d'autres parties qu'on n'aime pas, mais le corps en soi est juste une enveloppe qui nous permet de nous exprimer, que ce soit de parler piercing, que ce soit de parler tatouage, ou juste par rapport au fait de pouvoir parler tout simplement en fait. Il nous aide à ça, à vivre. Je viens de m'asseoir sur mon canapé en compagnie de mes animaux parce qu'en fait, j'avais besoin de me retrouver tout simplement avec tous les haltères. Et pour ce faire, c'est simple, on a une playlist qui s'appelle Safe Place. Et c'est là-dessus que se retrouvent toutes les musiques qui nous relient un peu entre nous. Et c'est vraiment le seul moment où on se retrouve tous ensemble au même moment. D'ailleurs, en bruit de fond, vous allez entendre la musique de Aaron, U-Turn Lily. C'est une musique très importante pour nous de par les paroles, donc je vous conseille vraiment de bien les écouter si vous comprenez l'anglais, et sinon vous pouvez trouver les paroles facilement traduites en français sur Internet. D'ailleurs, c'est un peu marrant parce que notre premier alter, conscientisé depuis l'enfance, s'appelle Aaron, et on a aussi une autre alter dans notre système qui s'appelle Lily. Alors, ça n'a rien à voir avec l'histoire dans cette musique. Lily, au contraire, est très solaire, très sociable, et c'est elle qui gère d'ailleurs principalement les relations sociales. Je vais vous faire écouter une partie de la musique du coup. You're the best things life ever made. For every step in any walk, any town, off any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Pendant 2 ans, j'ai travaillé en tant que ASH, c'est agent des services hospitaliers. Du coup, je travaillais en réanimation pédiatrique à l'hôpital. En fait, ça consiste juste au fait de servir des petits déjeuners, des repas, faire le ménage. C'était vraiment une période hyper importante de ma vie. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Et c'est là que je me suis rendu compte, enfin, de ce que je voulais faire réellement. Travailler dans les hôpitaux, ça me correspondait, mais vraiment beaucoup. Ça correspondait à ma personnalité, au fait que j'ai toujours eu un peu le syndrome du sauveur, où je veux aider tout le monde, je m'investis à fond. Et ensuite, après ça, on a découvert mon épilepsie.
Donc ça a commencé à être un petit peu compliqué pour travailler. J'ai eu ce qu'on appelle des myoclonies, donc beaucoup de secousses, que ce soit dans les bras, la tête, les jambes. Donc je faisais tomber des objets, tout ce que je touchais. Enfin, ça m'handicapait énormément. J'ai des absences aussi, ou parfois pendant l'espace de quelques secondes, c'est comme si j'étais plus là. Donc j'ai commencé par faire un mi-temps thérapeutique. Et quand je me suis mis en mi-temps thérapeutique, c'était vraiment très très dur pour moi. J'avais l'impression de plus servir à rien. En plus, je venais d'être diagnostiquée du trouble dissociatif de l'identité, donc j'ai dû gérer ces deux choses-là. Donc on a dû prendre du temps pour nous. Donc quand je dis nous, je parle toujours du système, pour se reconcentrer sur notre santé et prendre notre santé en main. Voilà, après, avec les infirmières, avec les médecins, tout se passait très très bien. Et puis quand j'avais le temps, je restais même avec les patients. En l'occurrence, c'était des enfants. Et en fait, à un moment donné, on crée du lien avec ces futurs adultes, en fait. Et c'est ça qui m'a plu tout de suite en réa, d'être auprès d'eux, auprès de ces enfants, auprès de ces adolescents, pour les aider à vivre les moments difficiles qui passaient, parce qu'on avait autant des cas où il fallait être là avec les parents aussi pour les soutenir, parler même 10-15 minutes avec eux et prendre de notre temps, ou tout simplement de rester avec un petit bébé où ses parents ne viennent pas le voir pendant plusieurs semaines, soit parce que c'est trop difficile pour eux, soit parce qu'il y a des cas de maltraitance, ce genre de choses. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est eux l'avenir et il faut prendre soin d'eux. Et je me sentais vraiment, vraiment à ma place, en fait. J'ai fait mon mi-temps thérapeutique, j'ai arrêté quelques temps après donc le travail. Là, ça fait 2 ans donc, que je suis au chômage. Pour mon avenir, moi, je sais ce que je veux faire. Je veux continuer à travailler dans les hôpitaux. Et c'est pour ça que là, je me suis orientée vers le métier d'aide-soignante. Je fais les choses dans l'ordre, en fait. Je fais ASH, puis aide-soignante. Peut-être plus tard, faire infirmière si j'en ai l'envie. Si je suis prise en tant qu'aide-soignante, je vais faire un concours. Enfin, en fait, c'est juste un oral et on verra si je suis prise ou pas. J'ai pour objectif de soit continuer à travailler dans des services assez lourds où peu de personnes arrivent en fait à avoir assez de recul finalement pour travailler là-dedans. Et en fait, c'est simple, dans les hôpitaux, quand on y travaille, c'est soit on est fait pour ça, soit pas du tout. Il n'y a pas de juste milieu. Et puis, on va pas se mentir, on donne un peu notre vie à l'hôpital. Hein. On compte pas les heures. Et ça, ça me dérange pas. C'est vraiment ce que je recherche. Apporter quelque chose aux autres. Et puis voilà, c'est vraiment des métiers que j'aime. Et c'est par là que j'ai envie de m'orienter. Ok, bon bah du coup là c'est parti, on va en course avec mon chéri. Ça me stresse un petit peu parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. Dans 80% des cas, de toute façon on y va toujours ensemble parce que sinon moi je pars dans tous les sens. Soit je fais des crises d'angoisse, soit il y a un alter qui vient et qui achète des trucs dont on a même pas besoin. Enfin bon, bref. Et là ça m'angoisse un peu dans le sens où en ce moment il y a beaucoup de switch, c'est un peu incontrôlable. Donc, soit j'arriverai pas à contrôler les alter little et ça va partir dans tous les sens. Dès qu'on verra des feutres, des couleurs, des paillettes, bien sûr, je vise Alice. Ou alors, ça va être la cata parce que du coup, en ce moment, il y a les troubles du comportement alimentaire qui recommencent à fond. Donc on mange plus qu'un seul repas par jour et ça c'est déjà assez compliqué, donc je sais pas du tout comment ça va se passer, mais bon, il y aura Alex et on est bien entouré si jamais il y a quoi que ce soit. Là on est en plein milieu des courses, ça va, ça y est, je commence déjà à bugger. Les lumières, il y en a pas beaucoup, c'est un peu tamisé. En fait, maintenant, les magasins, ils enlèvent les radios à une certaine heure, la musique, pour qu'il y ait moins de bruit, et ils baissent un peu les lumières. Attendez, j'ai perdu Alex. C'est bon, je l'ai retrouvé. Là, on va aller au rayon légumes, parce que moi, je gère pas ça. En fait, je suis pas légumes. Parce que moi, j'ai la flemme de faire à manger sain, vu que j'ai jamais connu ce que c'est. Enfin bref, je sais pas quoi dire d'autre parce qu'en fait là il y a beaucoup de monde et je pensais pas que ça me stresserait autant, mais en fait ça me stresse. Donc je vais pas pouvoir faire l'enregistrement trop longtemps. Mais la plupart du temps, putain, mais ça y est, ça m'énerve. La plupart du temps, on fait les courses ensemble parce que, comme je l'ai dit, sinon, soit je pars dans tous les sens, soit je me tape des crises d'angoisse. Et en l'occurrence, là, c'est ce qui commence à arriver. Je me déconcentre facilement. Après, j'oublie ce qu'il faut que j'achète. Donc, l'avantage quand je suis avec mon chéri, c'est que quand on établit la liste, lui, il se fie à ce qu'il a écrit pour éviter qu'on achète des trucs inutiles. Après, j'ai des haltères qui arrivent très bien à gérer les courses, hein, mais... On n'est pas très bien mentalement en ce moment, donc ça nous aide pas trop. Je parle bien sûr de notre système. Donc là, je commence à avoir un peu des bouffées de chaleur, je commence à avoir un peu chaud. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, alors que c'est pas... Enfin, tout le monde en a rien à foutre. Mais voilà, je me retrouve au milieu des tomates et des salades. Donc, meilleur endroit pour faire une petite crise d'angoisse des familles. Il va où ? Ah, me laisse pas. Bon, là, du coup, je vais essayer de le rejoindre parce qu'il m'a laissé tomber. Franchement, ça, c'est un truc que je déteste, faire les courses. Si je peux éviter, j'évite. Mais putain, mais pourquoi il... Pourquoi tu fais le tour ? Tu me laisses toute seule, là ? Voilà, c'est déjà en train de me gaver. Bon, bref, je crois pas que c'est une très très bonne idée que je vous enregistre pendant que je suis en train de faire les courses, en fait, parce que je me déconcentre trop, ça me saoule, et c'est en train de m'énerver, et j'ai chaud... Et je sais pas quoi prendre. En plus, Alex, il m'attend pas. Donc, je suis en train de faire des tours avec mon caddie comme une débile. Je vais essayer de faire un autre enregistrement après, quand je serai calmée, si j'arrive à me calmer. Bon, du coup, débrief de course. J'ai pas fait beaucoup d'enregistrements parce que c'était trop dur là pour la concentration. Du coup, on sort. La vie coûte cher, hein, franchement, elle coûte hyper cher. Donc ça, c'est un des trucs qui fait le plus chier. Enfin bref, donc là, on est sorti des courses. Je suis à l'extérieur, je prends un peu l'air, donc ça va un petit peu mieux. Parce que j'arrive un peu mieux à respirer. Des fois, ça se passe bien et on est euphorique et on aime trop faire les courses. Et d'autres fois, comme là, où on ressort en mode blasé, en fait, tout simplement, et stressé. Donc je commence à me triturer les cheveux là, faut que j'arrête parce que je me les arrache. Et voilà, c'était un peu une épreuve là pour le coup.
Il est déjà minuit et quart et je dors toujours pas et je chuchote parce que bah, mon copain il dort et mes animaux ils dorment, ils sont sur le canapé avec moi. Du coup je regarde la télé et la plupart du temps avant de dormir je prends des somnifères, mais j'essaie de pas en prendre tout le temps parce que sinon je peux vite devenir accro. Et là ça fait quelques temps que j'en ai pas pris et je dors pas. Je suis partagée entre est-ce que je prends pour que psychologiquement je me dise ça va m'aider alors que c'est faux, ça va pas m'aider, ou est-ce que j'en prends pas. Mais le problème c'est que j'ai besoin de sommeil parce que je suis épileptique. Demain je vais voir mon psychiatre, j'ai rendez-vous demain matin et puis je vais voir avec lui parce qu'en fait au coucher je suis censée prendre mon somnifère et un anxiolytique. Parce que je stresse tout le temps, j'ai beaucoup de flashbacks, j'ai des terreurs nocturnes et en fait je fais beaucoup de cauchemars. Que je prenne des somnifères ou pas d'ailleurs, je fais tout le temps des cauchemars. Voilà, et vous pouvez peut-être même entendre Soja en train de ronfler. Bon bah bonne nuit. Thank you. Moi, du coup, là, je vais chez mon psychiatre. Ça fait 2 mois et demi, un truc comme ça, que je l'ai pas vu. Mais ça, c'est de ma faute, hein. Parce qu'en fait, à chaque fois, je prends rendez-vous. Et après, je vais mieux. Ou un autre alter arrive et en tout cas, il va bien. Et du coup, on annule le rendez-vous en se disant, nous, avoir besoin de voir un psy, mais jamais de la vie. Et en fait, une semaine plus tard, bah, c'est la décadence. Donc, on reprend rendez-vous. Et puis après, il y a un changement d'alter. Et l'alter, il est en mode, wouh, Bélièvre, croire en nos rêves. Et en fait, quel rêve? T'as besoin d'être suivi, mec. Du coup, voilà, on annule, on reprend, on annule, on reprend. Et là, l'anxiété sociale, ben, parfois, elle joue aussi. Donc, impossible de sortir, impossible de prendre les transports en commun. Et je ne sais pas par quel miracle, j'ai réussi à sortir de mon trou pour pouvoir prendre le tram. J'y suis dans 1 minute exactement. Donc, il va falloir que je fasse face à la population strasbourgeoise. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. En plus, là, j'ai plein de choses à lui dire. Comme par hasard, après 3 ans d'absence, ma mère m'a envoyé un message. Du coup, je vais tout lui déballer, là. C'est bon, j'en ai marre. Ok guys, je viens de finir mon rendez-vous psy, ça s'est bien passé. En plus, son cabinet, franchement, il est trop, trop cool. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc, j'ai parlé des switches qui sont très récurrents. Mais bon, ça, c'est normal, c'est le principe du TDI. Et attendez, parce que là, vous allez entendre l'eau qui coule. Parce que je passe sur un pont. J'essaye de vous divertir en attendant. Parce que ça fait beaucoup de bruit, sinon vous n'allez pas m'entendre. Voilà, bientôt fini. Ok, donc j'ai parlé de mon TDI, de mes problèmes de dissociation qui sont très très intenses en ce moment. En fait, la dissociation, c'est l'impression d'être détaché de son propre corps. En fait, quand tu dissocies, c'est comme si tu étais séparé de ton corps. Et le problème, c'est que ça vient probablement du fait qu'on a augmenté mon traitement pour l'épilepsie. Et malheureusement, ce traitement-là, ça peut amener à des dépressions, à accentuer les troubles du comportement alimentaire. Donc là, par exemple, j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids. J'ai pris plus de 20 kilos. Donc c'est très compliqué à gérer. Voilà, globalement, on a parlé de ça. On ne s'est pas trop étalé sur d'autres sujets parce que j'avais pas la force au final de trop parler. Et ça, c'est un problème aussi parce qu'à chaque fois, j'arrive chez le psy. Ensuite, je dissocie dans la salle et je me dis, ok, là, faut qu'on dise ça aujourd'hui. Il y a tel sujet à aborder. Et devinez ce qui se passe? Rien. Au final, on aborde des sujets qu'on n'avait pas forcément réfléchi. Mais voilà. Donc, changement de traitement, on verra ce que ça donne. Et puis voilà, on a repris les séances assez rapprochées parce que sinon, ça devient un peu compliqué. Bon, il n'y a pas de traitement à proprement parler pour le TDI, hein, ça, malheureusement, tu te démerdes. Donc bon, au final, moins de traitements je prends, mieux je me porte. Mais j'en prends quand même beaucoup. Entre les traitements pour l'épilepsie et mes traitements psy, on peut dire que je suis rodée. Désolée si vous entendez mes clés. Yep, j'ai pas de courrier, comme on dit.
Pas de nouvelles, bonne nouvelle.
Donc je suis suivie depuis... En fait, au final, j'ai été suivie toute ma vie. C'est juste que... Ben... À chaque fois, j'annule mes rendez-vous. Et là, j'ai enfin trouvé un psy en qui j'ai confiance. Sinon, ça sert clairement à rien d'aller voir un psy si c'est pour tomber sur quelqu'un qui te met dans un état encore pire que dans lequel tu étais à ton arrivée. J'ai été diagnostiquée pour le trouble dissociatif de l'identité il y a 2 ans. Au départ, on était parti sur potentiellement un trouble bipolaire parce que je pouvais avoir des ups et des downs, donc à des moments me sentir extrêmement forte et pouvoir sauver le monde entier. Et à d'autres moments, descendre d'un coup sur une grosse dépression et des envies de me faire du mal.
Et en voyant le psy, au fur et à mesure, en lui racontant mes symptômes, en lui parlant de mon enfance, des traumatismes que j'ai pu vivre, de la maltraitance, de la torture psychologique, parce que clairement c'en était, et des agressions que j'ai pu subir, enfin, tout le pactole, on est arrivé à la conclusion du trouble dissociatif de l'identité. Vu que j'ai plus d'une identité dans ma tête, on est 16. Et... Mais ça va, oui, comment tu veux que je me concentre? Punaise, mais je vais devoir faire cet enregistrement 15 fois. Tu permets? Donc, avant d'être diag, on est en errance médicale pendant des années parce qu'on se demande ce qui va pas chez nous, parce que on connaît pas les troubles, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur qu'on nous comprenne pas. Mais je pense que c'est important quand même de s'écouter et de trouver un bon professionnel de la santé mentale pour pouvoir en parler, ou même à son médecin traitant qui peut vous orienter vers des bons professionnels de la santé mentale. Moi, personnellement, c'était un besoin vital. C'est un mot fort, mais c'était un besoin vital. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, pendant mon adolescence et pendant de nombreuses années, j'ai toujours été traitée de folle. Et j'ai tout le temps ce besoin constant, du coup, qu'on puisse m'expliquer d'un point de vue scientifique ce qui se passe dans ma tête.
Bonjour, je m'appelle Laurie et aujourd'hui je vais vous parler de qui je suis et d'une partie de notre enfance et des traumas qu'on a pu avoir. Moi je suis une alter qu'on appelle originelle, ça veut dire qu'en fait je suis là depuis toujours. J'ai été la première à être là. Notre prénom d'enfance du coup à la base c'est Laurie, donc tout le monde nous appelait comme ça avant qu'on change de prénom. Quand j'étais petite, c'est moi qui ai subi les traumas et qui ai appris à survivre avec Aaron, donc un autre alter du système. Et on savait pas encore hein, pour les autres. C'est juste que depuis petite, je sais qu'on est deux. Je me souviens des conversations qu'on pouvait avoir quand je me faisais frapper. Il était là pour... me rassurer et me dire de surtout pas parler, pour me donner des conseils, pour éviter d'envenimer les choses, même quand j'avais peut-être 5-6 ans. En fait, je peux pas vous donner trop de détails de mon enfance ou de mon adolescence d'un côté joyeux, parce que j'en ai pas, mis à part avec mes grands-parents paternels. Avec eux là-bas, c'était comme si tout était normal. C'est un peu dur. En fait, moi, je suis une alter qui garde tous les traumas. Donc, par exemple, pour que vous compreniez bien, on a une alter qui s'appelle Lily. Et elle connaît rien de tout ce qui a pu nous arriver. Elle a vraiment aucun souvenir. Donc, ça veut dire que quand elle est là, c'est comme une petite brebis égarée qui est hyper naïve et très sensible, très joyeuse. Donc elle a absolument aucun souvenir. C'est comme si elle avait toujours vécu dans un monde de bisounours et avec des plumes et des paillettes partout. Pareil pour les alter little qui connaissent pas ce qu'on a pu vivre, que ce soit les violences physiques, on se faisait battre avec des objets en tout genre. Je me souviens d'une fois, je m'étais fait frapper sur la cuisse avec une spatule en, vous savez, celle en métal. Et elle s'était cassée sur moi et j'avais saigné de la jambe. Donc c'est ma mère qui m'a fait ça et mon père était venu me voir pour me désinfecter la plaie. Et je lui ai dit, papa, je saigne. Et il m'avait répondu non, tu saignes pas, t'as rien. Et depuis,
J'ai toujours essayé de me convaincre qu'à chaque fois que je saignais, c'était rien et que j'avais rien. Je pense que c'était un moyen de me protéger. En fait, mon papa, c'était un homme battu. Donc, il se faisait aussi frapper. Il était aussi menacé. Il y avait beaucoup d'abus psychologiques. Enfin, il y a d'autres détails, mais je vais vous les épargner. Je suis désolée, c'est juste que c'est super difficile de parler de tout ça, mais c'est pour vous montrer à quel point les maltraitances infantiles peuvent avoir des répercussions énormes sur notre vie d'adulte, en fait. C'est plein d'exemples comme ça, de choses que j'ai dû gérer quand j'étais enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve à 16 dans notre tête. Il y a certaines choses que je me souviens pas et qui peuvent être tout aussi traumatiques. Et le trouble dissociatif de l'identité a été créé parce que pendant l'enfance, on n'a pas eu de figure parentale. On n'a rien eu pour se sentir en sécurité et pour ressentir de l'amour. On a toujours été rejeté. Donc quand je dis « on », je parle bien de mon système. Et on nous a fait toujours nous sentir à part, que clairement on n'avait rien à faire là, qu'on n'avait rien à faire en vie. Et c'est là qu'est arrivé Aaron. Je pense que c'était vers mes 5-6 ans. Moi, je pensais que c'était normal que tout le monde parlait à quelqu'un dans sa tête. Hein. À l'époque, j'étais petite, donc. Mais il était toujours là pour moi. Toujours là pour me rassurer, toujours là pour me dire que c'était pas de ma faute. Je le savais que c'était une voix de garçon, que c'était une voix qui n'était pas la mienne. Et c'est comme ça que je savais qu'on était deux, en fait. Parce qu'on avait deux comportements tellement différents. Enfin, lui, il a toujours été là uniquement en interne. Il n'y a jamais eu de switch. Il n'a jamais agi en dehors que dans ma tête. Mais il était vraiment là pour moi. Il était très... comme mon grand frère. Comme si c'était mon grand frère et que c'était quelqu'un qui était vraiment là pour assurer ma sécurité et ma protection. Et moi, au contraire, j'étais très renfermée, très triste. Je pensais que si tout me tombait dessus, c'était vraiment de ma faute. Et c'était vraiment très compliqué à gérer. Ma famille était, et toujours, ma mère est très croyante. Et du coup, on l'a été aussi, vu qu'on allait à l'église. Donc parfois, je priais Dieu pour pouvoir mourir, pour qu'il m'aide à quitter cet endroit. Et je lui demandais pourquoi il ne m'aidait pas. Et pourquoi je subissais tout ça, en fait. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas de réponse et pourquoi personne ne pouvait m'expliquer. Et ça, ça nous suit jusqu'à dans notre période d'adulte, parce que je me demande toujours pourquoi. Je me demande toujours pourquoi nous, ses enfants, pourquoi son mari, pourquoi on a subi tout ça, c'était quoi la raison en fait. Et au plus elle vieillit et au plus elle commence à devenir paranoïaque et psychotique et où elle a des réactions, elle a l'impression que tout le monde veut la tuer. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas de nouvelles. Et aujourd'hui, elle est revenue vers moi. Mais pour m'insulter toujours, hein, pour me dire que je suis une immonde personne, pour me dire des choses qui n'ont aucun sens. La dernière fois que j'ai eu contact avec elle, elle m'a agressée, ce qui a amené un ITT pour ma part. Et pendant 5 semaines, ne pas pouvoir aller travailler parce que j'avais subi une grosse agression et j'avais porté plainte, j'avais enfin réussi à porter plainte. Donc j'avais plus de contact avec elle après ça. Et là, elle m'a renvoyé des messages vocaux pour me dire que si elle est toute seule aujourd'hui, c'est à cause de moi. Si elle est isolée aujourd'hui, c'est à cause de moi. Et en fait, tout a toujours été à cause de moi. Et ce qu'elle me disait hier dans les vocaux, c'est qu'elle aurait aimé pouvoir venir devant ma porte et se tirer une balle dans la tête. C'est pour ça que ça refait surgir des traumatismes très lourds dans le système et qu'on est un peu chamboulé. Parce que bien sûr... À chaque fois que je fais quelque chose de ma vie d'important, comme là par exemple un podcast pour pouvoir vous expliquer le trouble, en quoi il consiste et pourquoi il est là, il y a toujours quelque chose qui vient interférer dans ma vie et dans ce que je pense être positif. Et là, comme par hasard, elle est revenue. Bref, je vous ai raconté une bonne partie de ma vie. comment le TDI est arrivé et pourquoi. J'espère que c'était pas trop dur à entendre pour vous et voilà. Alors, je vais vous parler de comment ça se passe en ce qui concerne les switches. Alors, déjà, faut savoir que dans 90% des cas, on va pas se rendre compte qu'on a switché. En fait, ça dépend des haltères. Par exemple, quand on a parlé du sujet sur l'enfance et les traumas, il y avait Laurie qui était là. Donc là, vous pouvez vous en rendre compte parce que tout simplement, quand elle parle, ça se sent qu'elle est très ailleurs, qu'elle est très triste. Pour la visite de l'appartement, c'était Lily, et ça se ressent dans le sens où elle est tellement barjo que, enfin, on peut que la capter quand elle est là, en fait, parce que elle va parler d'un sujet, après elle va revenir à autre chose, elle se déconcentre facilement et elle a pas de filtre. Tout ce qu'elle va penser, en fait, elle va le dire automatiquement. En ce qui concerne le retour psy, quand on était sur le retour du psychiatre, c'était Alicia. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte ou pas, mais en gros, Alicia, elle a un peu un caractère... C'est une adolescente, en fait. Du coup, elle a un peu un caractère fort et elle peut vite montrer qu'elle est blasée ou quand elle s'en fout de quelque chose, elle va vite être expressive, en fait, sur ça. En ce qui concerne l'importance du suivi psy, il y avait un mélange entre moi, du coup, Ilona... Et Alicia. Moi, Ilona, du coup, je suis un peu plus dans la réflexion. Je vais faire attention à l'importance de mes mots, de l'impact que ça peut avoir. Et je vais faire attention aussi à ce que les gens comprennent bien ce que je veux dire. Enfin, ce genre de choses. Donc là, si vous écoutez ces enregistrements-là, vous pourrez mieux, du coup, savoir quel alter est qui, et voilà, les switches, tout ça. Mais... dans la vie de tous les jours, personne ne se rend compte qu'on a un TDI. En ce qui concerne les timbres de voix ou ce genre de choses, si vous avez la référence du film Split, oubliez-la tout de suite. Ça se passe pas du tout comme dans ce film-là. Les gens de la vie de tous les jours, ils vont pas capter. Ils vont peut-être se dire juste « Ah, c'est une personne qui est extravertie, qui a un petit côté taré. » Mais ils vont plus se dire que c'est des sauts d'humeur ou voilà ce genre de choses, des changements de comportement. Mais ils vont pas se dire qu'il y a un trouble dissociatif de l'identité derrière. Comme je l'avais déjà dit, c'est le principe du trouble. C'est que ce soit vraiment pour... aider en interne surtout, comme les discussions par exemple qu'on peut avoir, ça se fait principalement dans la tête, donc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais faut juste vous dire qu'on est des personnes normales et que vraiment dans presque 100% des cas, vous vous rendez pas compte qu'il y a des personnes TDI ou multiples, donc qui ont plusieurs personnes dans leur tête, dans votre entourage. Quand les personnes se demandent comment voir absolument un switch, comment remarquer absolument quel alter est qui, ce genre de choses, franchement, abandonnez l'idée. Si ça vient pas des personnes en elles-mêmes, ne posez pas la question parce que ça peut perturber les systèmes. Alors je parle toujours de mon cas, hein, je suis pas la porte-parole de toutes les personnes qui ont un TDI, mais chez nous, quand un alter a vraiment envie de faire comprendre qu'il est là ou qu'elle est là, il va le dire en fait. Lily, meilleur exemple, quand on est sur les réseaux sociaux, qu'elle met une story sur une photo d'elle, une vidéo, machin, elle va toujours signer en mettant que c'est Lily. Et ça peut arriver que justement, quand quelqu'un nous dit « Et là, c'est qui est là ?» bah ça fasse bugger tout le système. Parce qu'après, l'alter, il est en mode « Ah merde, mais attends, je suis qui ?» Et après, ça nous fait nous remettre en question sur nous-mêmes, à se sentir moins légitime, à se dire, mais en fait, on mytho sur le trouble, mais comment c'est possible de pas savoir qui on est réellement, éviter de demander au système, aux alters, qui est là, on s'en fout. On n'est pas des bêtes de foire. Faut bien que vous soyez conscient que la personne qui a en face de vous, ça reste la personne que vous connaissez, que vous avez toujours connue. Parce que la plupart du temps, quand on est diagnostiqué, c'est des années après. Donc, la plupart de notre entourage nous ont toujours connus comme ça. Le principal, c'est que la personne à qui vous parlez soit safe, bienveillant, soit votre ami. C'est tout ce qu'on veut, en fait.
Cet épisode a été tourné au printemps 2024. À l'automne, Ali nous a quittés. Elle tenait à ce que ce podcast soit diffusé. Il lui est dédié. Réalisation, Séverine Cassard. Mixage, Julien Chabassu et Baptiste Collion. Supervision, Fanny Boyon. Dans la tête de est un podcast original de France Inter.